un point intéressant dans l'Apocalypse, c'est la manière dont on se rend compte qu'il y a une confession de foi assez précise sur la personne du Christ. Il y a beaucoup de choses dans l'Apocalypse, mais entre autres, il y a ça, à travers les visions, à travers les descriptions. Quand on arrive un peu à décoder les symboles utilisés, on se rend compte que, en fait, il y a une confession de foi déjà assez précise. Il y a une formule l'apocalypse de Saint Jean, mais disons l'apocalyptique en général, c'est un peu la matrice de la dogmatique. On ne fait pas forcément le rapprochement entre un dogme tel que c'est défini par un concile, je crois le concile de Nicée, le concile de Chalcédoine, d'un côté, et puis de l'autre, ces espèces de visions, ces descriptions un peu étonnantes parfois des voyants dans l'apocalyptique. Et en réalité, il y a quand même un lien entre les deux. Et André Paul a une formule, alors on peut la retenir, il dit, le dogme, c'est la vision devenue formule. Je trouve que cette phrase est très, très expressive. Le dogme, c'est la vision, ça c'est donc l'apocalyptique, c'est la vision devenue formule. Alors ça, j'essaierai de vous faire comprendre ça, de vous expliquer ça un petit peu, peut-être pas dès ce soir, je pense pas, mais avec un peu de chance, dans la deuxième séance. Alors ce soir, on fait des choses. Donc une présentation historique et littéraire de l'Apocalypse. Bon, alors je suppose que vous avez tous déjà jeté un œil dans l'Apocalypse. Vous l'avez peut-être déjà lu en entier, plusieurs fois même. Ce n'est pas un livre très très commode. Hein. C'est un livre qui fait souvent un petit peu peur au lecteur. Peur parce qu'il annonce des choses qui ont l'air un peu terribles, mais aussi parce qu'on a l'impression qu'on ne comprend pas ce livre. Il nous manque des codes, il nous manque des symboles. On a l'impression que c'est un peu écrit dans une langue étrangère, hein, qu'il y a quelque chose de. Il y a un écart trop grand entre le monde culturel de l'époque et puis le nôtre. Et donc, souvent, quand on lit ce livre, on commence. N'arrivera jamais à comprendre. Alors, en fait, non, comme tous les livres de la Bible, il y a une distance culturelle, mais on peut la surmonter. Et grâce à Dieu, il n'y a pas que l'Apocalypse de Saint Jean comme livre apocalyptique. Il y a beaucoup, en fait, d'apocalypses à la fois juives et chrétiennes. Et ben, les spécialistes les ont lus, les ont étudiés. Et par comparaison, on arrive assez bien quand même à comprendre ce que Saint Jean fait dans l'Apocalypse. Donc, il faut entrer dans ce livre. Certes, en se disant qu'il y a du travail à faire pour comprendre, mais que c'est possible. Il ne faut pas partir battu. Alors, c'est un livre qui nous fait peur, je disais, mais en fait, il ne faut pas avoir peur. Et c'est un livre qui posait déjà problème à l'Église primitive. Il nous pose problème, mais il posait déjà problème, pour peut-être un peu d'autres raisons, à l'Église primitive. L'Apocalypse de Saint Jean a eu du mal à entrer dans le canon des Écritures. Alors l'Église était assez divisée au deuxième siècle. Favorable, par exemple Saint Justin, Saint Irénée, et puis il y a des pères qui sont plutôt hostiles à l'Apocalypse de Saint Jean. Mais en fait, on arrive assez bien à comprendre pourquoi ils sont hostiles. C'est que le deuxième siècle, c'est une époque où va se développer des courants un peu exaltés dans l'Église, ce qu'on appelle le montanisme, des courants. Il y a Et alors, parfois, ça prenait des directions tout à fait contestables. Et du coup, l'Apocalypse, on la mettait un petit peu dans le même sac que tous ces courants visionnaires un peu déviants. Et donc, l'Apocalypse a pâti du montanisme, de l'extension du montanisme. Alors, surtout en Afrique du Nord, hein, ça c'est très vrai en Afrique du Nord. Mais enfin, finalement, donc ce livre a fini par être reconnu par l'Église, notamment parce que on reconnaissait quand même qu'il était. La question de l'attribution de l'auteur est complexe, mais disons, on le mettait quand même dans le corpus johannique, reconnu comme apôtre. Et donc, on a fini au IVe siècle par vraiment le reconnaître comme partie prenante du canon des Écritures. Alors, une fois qu'on a accepté que ce livre faisait partie de la Bible, évidemment, comme c'est le livre qui conclut la Bible tout entière, ancien et nouveau, enfin tout compris, c'est la fin, et donc sa position même dans le canon lui donne une place, une importance considérable. Tout le livre, dans tout corpus de textes, pour dire l'introduction et la conclusion, c'est toujours le plus important. Bon, ben, la Genèse et l'Apocalypse, c'est les deux livres qu'il ne faut pas rater dans la Bible. Et c'est vraiment ceux qui nous... C'est le premier mot et le dernier mot, l'alpha et l'oméga. Donc, une fois que l'Apocalypse a trouvé sa place dans le canon, c'est vraiment important de s'y confronter parce que c'est avec cet Apocalypse de Saint Jean que la grande histoire du salut, le récit du salut qui nous est transmis par les Saintes Écritures, trouve sa conclusion. Alors, l'auteur, j'en ai parlé très très vite, mais on va creuser un petit peu cette question. Alors, on dit l'Apocalypse de Saint Jean. Alors, on dit ça parce que, pour le coup, l'auteur lui-même se nomme dans ce livre, ce qui n'est pas le cas, par exemple, des évangiles. Vous savez que les quatre évangiles, on dit que c'est l'évangile de Marc, de Matthieu, Catamarcon, ça fait pas partie du texte lui-même. C'est des titres qu'on a rajoutés parce qu'on les a attribués à des apôtres ou à des proches des apôtres, mais ce n'est pas dans le livre lui-même. L'Apocalypse, pour le coup, c'est l'auteur lui-même a mis son nom, il s'appelle Jean, il le dit à deux ou trois reprises, et il ne se présente pas de manière explicite comme l'apôtre, frère de Jacques, fils de Zébédée. Des gens, il y en avait beaucoup à cette époque-là, enfin, c'était un prénom pas du tout rare. Bon, on sait qu'il s'appelle Jean, mais évidemment la question c'est qui est ce Jean. Alors ce qu'il nous dit de lui, il faut toujours commencer par ça, quand on s'intéresse à l'auteur d'un livre biblique, il faut d'abord regarder le témoignage interne, donc qu'est-ce qu'on peut déduire du livre lui-même. Il dit qu'il est serviteur du Christ, ça c'est au verset 1, au tout premier verset de l'Apocalypse, il est doulos, serviteur du Christ, et il dit aussi qu'il va donner un témoignage en martyria, par l'intermédiaire de visions, les choses qu'il a vues. Donc, c'est le verbe eidein en grec. Donc ça nous donne une constellation de mots qui nous rapproche du prophétisme. Les prophètes, dans l'Ancien Testament, bien sûr, se présentent comme des serviteurs de Dieu. Ils donnent un témoignage et ils ont des visions. Ils reçoivent des oracles. Mais très souvent, quand vous allez voir les prophètes, donc je sais pas, Amos, Isaïe, Jérémie, il y a des moments où ils disent vision que Isaïe a reçue ou vision d'Amos. Donc ils transmettent par une parole quelque chose qui est rendu par une vision. Donc tout ça, ça nous ancre ce Jean, auteur de l'Apocalypse, du côté des prophètes. Et d'ailleurs, lui-même va conclure, ce fameux Jean va conclure son livre en faisant une allusion à ces prophètes, ou plutôt il y a l'ange qui accompagne l'auteur de l'Apocalypse tout au long du livre, lui donne donc des directives à la toute fin du livre, donc c'est au chapitre 22, dernier chapitre de l'Apocalypse, versets 8 et 9, et cet ange donc dit à Jean, alors qu'il s'était prosterné pour l'adorer, alors il ne faut pas faire ça, on n'adore que Dieu. Et donc l'ange lui dit, attention, je suis un serviteur comme toi et tes frères les prophètes. Et donc l'ange lui-même, qui est, dont la parole est authentique, les anges ont toujours raison, l'ange lui-même dit que Jean fait partie de l'ensemble de la fraternité des prophètes. Donc je suis un serviteur, doulos, alors ça, comme Jean le disait lui-même au début, je suis un serviteur comme toi et les frères prophètes, et tes frères les prophètes et ceux qui gardent les paroles de ce livre. C'est Dieu qu'il faut adorer. Donc, une petite leçon de théologie, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est cette qualification prophétique. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que, ben, pour deux raisons. D'abord, ça rend quand même peu plausible le fait que l'auteur de l'Apocalypse soit un apôtre. S'il était apôtre, si ce Jean était le frère de Jacques, le fils de Zébédée, Il y a quand même des chances que le titre même d'apôtre apparaisse ou au début ou à la fin du livre. Saint Paul, quand on va voir ses lettres, il se présente lui-même comme un serviteur, mais enfin, assez souvent, il dit aussi apôtre, apôtre et serviteur, apostolos kai doulos. Là, on n'a que serviteur. Et donc, s'il dit qu'il est prophète, c'est très bien d'être prophète, mais enfin, s'il pouvait asseoir encore plus fortement son autorité en rappelant qu'il est apôtre, il y a quand même de fortes chances qu'il le dise. Donc, tout ça nous fait penser que cet homme n'est pas un apôtre, il ne fait pas partie des douze, il n'est même pas apôtre au sens de saint Paul, qui a une vision un peu plus large de l'apostolat. Donc ça, c'est le premier point, c'est intéressant de voir ça, c'est sans doute pas un apôtre. Et deuxième point, c'est que saint Jean, très consciemment, veut situer son œuvre dans la grande histoire prophétique qui a commencé dans l'Ancien Testament. Alors ça, c'est important pour comprendre, pour interpréter ce livre. C'est original, l'Apocalypse de saint Jean, ça c'est certain. On voit bien que c'est un livre, c'est pas comme un évangile, c'est pas comme une lettre de saint Paul, c'est pas non plus comme les actes des apôtres, mais c'est pas totalement original. Si on veut le comprendre, il faut le comprendre en ayant en tête les devanciers, les frères prophètes de saint Jean, c'est-à-dire Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. Et donc c'est la manière dont ces prophètes témoignent de la conduite, enfin plutôt du fait que Dieu conduit l'histoire pour le salut des hommes. Jean, auteur de l'Apocalypse, se présente dans cette mouvance. Donc d'entrée de jeu, on se dit, dans ce livre-là, des clés vont nous être données pour comprendre la manière dont Dieu agit dans l'histoire. L'histoire, hein, donc il y a des visions, il y a peut-être des extases, ça fait partie de l'apocalyptique, hein, on nous dit, bon, ben, le ciel s'ouvre, je monte au troisième ciel, il y a un ange qui m'explique. Alors, nous, on a souvent tendance à comprendre ça comme des expériences extatiques, des expériences d'union à Dieu très, très, très fortes. Alors, ça, c'est sans doute vrai, mais il ne faudrait pas comprendre ces extases comme quelque chose qui fait sortir de la grande de la logique de la Bible, de la grande histoire du salut qui, précisément, est historique. Alors, cette insistance sur la prophétie, sur le fait que Jean est prophète, je pense qu'elle est là, entre autres, pour ça. Bon, donc, si ce Jean n'est pas un apôtre, c'est donc pas le fils de Zébédée, le frère de Jacques, est-ce que c'est l'auteur du quatrième évangile, dont d'ailleurs la tradition l'a identifié à l'apôtre Jean, mais vous savez que c'est pas si clair que ça. Alors ça, c'est une question importante, incontournable quand on s'intéresse à l'Apocalypse, c'est quel est le rapport entre l'Apocalypse et l'évangile dit de saint Jean, le quatrième évangile, et aussi les lettres de saint Jean, puisqu'on a trois petites lettres, trois petites épîtres attribuées à saint Jean. Donc ça, tout ça, ça forme le corpus joannique, l'évangile, les trois lettres et l'Apocalypse, mais est-ce que c'est légitime d'en parler comme d'un corpus unifié? Alors, là, évidemment, les exégètes d'aujourd'hui comme du passé, hein, les pères de l'Église, étaient surtout ceux de langue grecque, plus facilement que les latins, étaient tout à fait capables de faire des analyses littéraires, stylistiques, philologiques, pour sentir un peu s'il y avait une unité d'auteur ou pas. Et en réalité, donc, en gros, hein, la conclusion que les anciens comme les modernes c'est la conclusion à laquelle ils aboutissent, c'est que on peut assez plausiblement mettre du même côté l'évangile de saint Jean et les trois petites lettres dites de saint Jean, mais que l'Apocalypse, c'est beaucoup plus problématique. Il y a vraiment des grandes différences de vocabulaire, de manière de tourner des phrases. C'est un grec beaucoup plus compliqué que celui de l'évangile et des épîtres. C'est même tellement compliqué que c'est assez souvent qu'il y a on dirait des fautes de grec. Enfin, en tout cas, il y a des problèmes d'accord. C'est très, très. C'est un grec assez bizarre, hein, le grec de. Et c'est quand même assez différent. En français, on voit peut-être pas tellement, mais quand on compare en grec, même sans être un spécialiste, on dit mais c'est pas possible que ce soit le même auteur ou alors il s'est passé quelque chose. Hein, de l'Apocalypse et de l'Évangile. Donc ça va plutôt dans la direction d'une dissociation de l'Apocalypse et de l'Évangile et des lettres. Mais évidemment, il y a aussi des arguments dans l'autre sens, parce qu'il y a des points communs. Alors, philologique, il y a des mots qu'on ne trouve que dans l'Évangile et dans l'Apocalypse, par exemple. Il y a aussi des idées théologiques, des concepts, des catégories théologiques qu'on ne trouve que dans l'Apocalypse et le quatrième Évangile. Il y a aussi même quand même quelques similitudes d'expression. Donc, alors là, ça nous ramène plutôt du côté de l'unité du corpus. Alors évidemment, quand on a ces deux données un peu contradictoires, on est un petit peu embarrassé, donc ça va un peu dans les deux sens. Il faut trouver un moyen d'expliquer aussi bien les similitudes que les différences. Et donc l'explication la plus simple, la plus plausible, si on adopte le principe du rasoir d'Occam, donc ce qui est le plus simple et le plus plausible, c'est que l'auteur de l'Apocalypse est bien différent de l'auteur du corpus johannique, enfin de l'Évangile des Lettres, pardon. C'est pas la même personne, mais il connaissait cet évangile et ses lettres, il s'en est nourri et il s'en est même inspiré davantage au plan des mots et des idées théologiques que du style, ce qui est assez normal. On peut essayer de plagier un style, mais enfin, il faut avoir une bonne raison de le faire. Et là, apparemment, ce qui l'intéresse, c'est surtout de s'inscrire dans une continuité de pensée, donc une continuité de certaines expressions. Il y a quelques mots porteurs de la pensée johannique que l'auteur de l'Apocalypse va reprendre, mais il ne va quand même pas essayer d'imiter le style. Il garde son style à lui, assez différent, beaucoup plus laborieux, beaucoup plus compliqué que celui de l'auteur du quatrième évangile. Alors, tout ça fait que, quand on met tout ça ensemble, ce qu'on dit en général aujourd'hui, c'est qu'on a le droit de parler d'un corpus johannique qui comprend l'Évangile, les trois lettres et l'Apocalypse, mais en ayant bien en tête que corpus johannique ne veut pas dire unité d'auteur. Ça veut plutôt dire qu'il y a une communauté qui est très liée à un Jean, alors Saint Jean, sans doute quand même, moi je pense, l'apôtre Saint Jean. Je crois quand même que l'apôtre Saint Jean a joué un rôle là-dedans, sinon je pense que le témoignage de la tradition n'aurait pas été aussi fort. Mais ce Jean qui couvre, donc l'apôtre, là pour le coup, frère de Jacques, fils de Zébédée, qui couvre de son autorité le corpus johannique, n'est pas auteur au sens de l'écrivain, il est auteur au sens de celui qui donne une autorité, une authenticité au corpus. Mais son témoignage a été relayé, mis par écrit, mûri, amplifié, parce que tous ces gens-là qui étaient les disciples de l'apôtre ont une vie chrétienne, et si on prend l'auteur de l'Apocalypse, il a eu des visions, donc il a quand même eu une expérience spirituelle forte. Donc le témoignage de l'apôtre Saint-Jean a été recueilli et prolongé par l'auteur de l'Évangile et des lettres. Alors sans doute, là c'est une seule personne, mais il y a peut-être eu des relectures quand même dans sa communauté, mais disons en gros, c'est une personne unique qui a fait l'Évangile et les trois épîtres, et puis sans doute plus tard, ce fameux Jean, prophète, qui a écrit l'Apocalypse. Alors vous me direz, c'est quand même bizarre que tous ces... Pourquoi ils s'appellent tous Saint Jean ? Alors, ils s'appellent tous Saint Jean, attention, hein, Jean, on l'a, le nom de Jean, on l'a dans l'Apocalypse, on l'a aussi dans la deuxième et la troisième épître de Saint Jean, mais pas dans la première, si je me souviens bien, et on ne l'a pas dans l'Évangile. Alors, peut-être que, et puis il y a l'apôtre Saint-Jean, alors on dit ça serait quand même, c'est un curieux hasard finalement quand même, que ceux qui sont disciples de l'apôtre Saint-Jean et qui mettent par écrit, enfin qui écrivent des choses, l'évangile, une épître, une apocalypse, c'est quand même bizarre qu'il s'appelle Jean. Peut-être que c'est un heureux hasard, c'est vrai que c'était un nom qui était assez fréquent. Peut-être aussi que c'est un nom de plume. Oui, c'est-à-dire que c'est pas du tout impossible que pour bien montrer... Ce n'est pas pour mentir, mais c'est pour bien montrer qu'il y a une filiation spirituelle qui est reconnue par l'auteur de l'Épître, par l'auteur de l'Apocalypse, et aussi la tradition le verra pour l'auteur du quatrième évangile, puisqu'on dira que c'est l'évangile de Jean. Donc on s'appelle Jean parce qu'on reconnaît qu'on vit du témoignage apostolique porté par Jean, le frère de Jacques. Voilà pour l'auteur. Alors pour la date... En gros, il y a deux hypothèses, mais enfin, il y en a une qui est quand même très minoritaire et l'autre qui est très majoritaire. Donc, je vais plutôt suivre l'hypothèse majoritaire et ça a quand même des incidences, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on se donne beaucoup de mal pour situer une date d'écriture et on se dit, mais finalement, ça ne change pas grand-chose pour l'interprétation. Là, en l'occurrence, ça change quand même pas mal les choses. Donc, les deux interprétations pour la date et, disons, le contexte historique, ça porte en fait sur le contexte de persécution qui donne l'occasion de l'Apocalypse. Quand on lit l'Apocalypse, on voit très bien, aussi bien dans les lettres de cette Église que dans les visions qu'il y a par après, que c'est une période de trouble, une période où c'est difficile d'être chrétien, où il y a des vexations, des persécutions. Est-ce que je parle tout seul depuis 20 minutes? Ça coupait depuis combien de temps là?
Depuis 2 minutes.
2 minutes, ah bon. Donc on va quand même prendre les premières persécutions. En gros, il y en a deux au premier siècle. Alors il y en a une qui est sous Néron, disons entre 64 et 70, qui est assez bien documentée par des auteurs païens. Et vous connaissez cette histoire, c'est lié au fait que Néron était assez contesté, et puis il y a eu l'incendie de Rome, on l'a mis sur le dos de Néron, alors du coup, lui, il a essayé de mettre ça sur le dos des chrétiens. C'est à cette occasion que probablement Saint Paul et Saint Pierre ont été martyrisés, on a vu ça l'an dernier par Zoom, donc quand je vous ai parlé des Actes des Apôtres. Si, alors si on adopte ce contexte de persécution, ça veut dire qu'on serait entre 64 et 70, donc c'est assez précoce. Ça serait contemporain de Saint Marc, si vous voulez, pour vous donner une idée, l'Apocalypse, et antérieur aux trois autres évangiles, antérieur notamment à l'évangile de Saint Jean, qui est sans doute de 80, 90. Alors, ça, c'est l'explication minoritaire. L'interprétation minoritaire. L'interprétation majoritaire, c'est plutôt de prendre comme persécution celle de Domitien qui est à la fin du 1er siècle, alors disons vers 95. Alors, pourquoi est-ce qu'on adopte majoritairement cette interprétation? C'est parce que, alors il y a plusieurs éléments. D'abord, quand l'analyse des sept lettres, vous savez, dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, on a sept lettres à sept communautés d'Asie. Donc, c'est des vraies lettres. Alors, elles sont dictées par le Christ, qui demande à Jean d'écrire une lettre à un ange. Alors, c'est un peu bizarre, hein, c'est un truc à dire à un ange, vas-y en direct. Mais enfin, bon, on verra peut-être ce que ça veut dire. Mais enfin, en tout cas, ça s'adresse à des anges qui sont gardiens de communautés chrétiennes en Asie. Donc, en réalité, c'est des lettres adressées à des communautés, comme Paul qui écrivait aux Colossiens, aux Romains, aux Éphésiens. Et quand on étudie ces lettres, on se rend compte que probablement, il y a quand même des espèces de reprises. Alors, c'est assez discret, mais les exégètes font un travail assez fin. Et il semble, d'après ces lettres, que l'auteur de l'Apocalypse connaissait le corpus paulinien. Alors, ça veut dire que ce corpus paulinien avait déjà un statut quand même plus ou moins canonique. Vous voyez, il était reconnu comme une écriture normative, inspirée. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, il semble aussi, c'est aussi discret, mais on arrive à trouver des connexions entre l'Apocalypse et certains discours de Jésus dans les évangiles, et notamment, évidemment, ça c'est assez naturel, ce qu'on appelle les discours eschatologiques de Jésus dans les évangiles. Ça, c'est dans les synoptiques. Vous avez ça, c'est quand Jésus est à Jérusalem, juste avant sa passion. Il y a les disciples qui sont émerveillés par le temple, ils disent, mais regarde ces pierres. Et Jésus dit, il ne faut pas vous y laisser prendre, il n'en restera pas pierre sur pierre, tout ça va être détruit. Et Jésus livre un discours, alors pas très simple à comprendre, c'est ce qu'on appelle le discours eschatologique, où il parle en apparence à la fois de la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ et puis de la fin du monde. Et alors, il y a quand même des connexions entre ces discours-là et l'Apocalypse. Et on pense quand même que c'est pas Jésus qui s'inspire de l'Apocalypse, ça serait plutôt le contraire. Donc, tout ça milite pour une datation postérieure aux épîtres de Paul et aux évangiles synoptiques. Deuxième point. Troisième point, l'identification de Babylone à Rome, parce que alors, c'est un langage codé, il y a un langage symbolique dans l'Apocalypse, et donc la ville qui représente les méchants, il y a la ville des gentils et la ville des méchants. C'est assez binaire, hein, l'Apocalypse. Hein, on ne fait pas trop dans la nuance, donc c'est un contexte de persécution. Donc moi, j'aime bien ça. Moi, j'aime bien quand c'est simple. Hein, c'est comme un film américain. Il y a les bons, il y a les méchants. Il y a la ville des bons, il y a la ville des méchants. La ville des bons, c'est Jérusalem. La ville des méchants, c'est Rome. Mais alors, on en parle de manière codée. Parce que les apocalypticiens aiment bien parler de manière codée. Ça fait partie du genre. Peut-être aussi par prudence, certains disent vaut mieux utiliser des prête-noms parce que si jamais ça tombe, si jamais y a la censure romaine se rend compte que bon, il y a un livre où on traite de tous les noms et on, avec des menaces d'ailleurs d'intervention de Dieu, enfin que les chrétiens menacent l'Empire romain de manière trop claire, ça pourrait avoir des répercussions graves. Donc c'est plus prudent d'utiliser des noms de code. Et alors, le nom de code pour Rome, alors là, je crois que tous les exégètes sont quand même d'accord pour ça, c'est Babylone. Donc, quand on parle de Babylone, en fait, on ne parle pas de la ville de Babylone, mais de Rome. Mais parler cette identification, vous voyez qu'elle a beaucoup plus de 87 avant Jésus-Christ pour les Babyloniens, en 70 après Jésus-Christ pour les Romains. Donc, tout ça, encore dans le sens que c'est bien après 70, et pas avant, c'est-à-dire pas sous Néron, mais donc sans doute après 70, et si c'est après 70, c'est sous Domitien. Alors, il y a encore un point, c'est le fait que les églises d'Asie, donc ces fameuses sept communautés auxquelles Jean, l'auteur de l'Apocalypse, écrit, quand on regarde ces lettres, il semble que parmi les problèmes qu'il y a, il y a un peu un problème, je dirais, de lassitude, surtout dans l'épreuve. Bon, faut se méfier avec cet argument, mais disons, il semble, c'est plus logique, disons, que si c'est qu'un enthousiasme qui se refroidit, c'est plutôt qu'il y a déjà quand même c'est des églises qui ont déjà une certaine durée d'existence et qui ne viennent pas d'être fondées. Tout ça encore va plutôt dans le sens d'une datation un peu tardive. Et puis alors, un argument que moi je trouve très fort, c'est qu'en Apocalypse 21-14, alors là vous avez la description de Jérusalem, qui est la cité des bons, la Jérusalem céleste. Et on nous parle du temple en nous disant que le temple est construit sur, il y a 12 colonnes, 12 portes, je ne sais plus, qui sont les 12 apôtres. Alors ça veut dire que la période apostolique, elle est vraiment terminée, et même que les apôtres ont pris une importance théologique tellement grande que on est capable de les mettre, enfin c'est symbolique évidemment, mais dans la constitution du nouveau temple. C'est tout à fait caractéristique de ce que je disais tout à l'heure quand je disais l'apocalyptique, ou plutôt le dogme, c'est la vision apocalyptique devenue formule. Vous voyez, dans le credo, on dit que l'Église est apostolique. Quand on dit ça, on ne veut pas simplement dire que accidentellement, c'est les 12 qui ont commencé à parler de Jésus-Christ, puis Saint Paul a un peu continué. Enfin, vous voyez, ce n'est pas simplement un accident de l'histoire. Quand on dit que l'Église est apostolique, on est en train de donner une caractérisation doctrinale de l'Église, qui veut dire que ça repose sur le témoignage de ces 12, mais que donc ça suppose avoir connu Jésus dans la chair. Ça veut dire que il y a plein de trucs en fait qui sont liés à ça, qui portent sur les sacrements. Bref, quand on dit que l'Église est apostolique, on donne une valeur dogmatique, doctrinale aux apôtres. Ben, au fond, c'est exactement ce que fait Saint Jean en 21, mais alors pas par une formule, il ne dit pas que l'Église est apostolique, mais en disant que le temple, que dans la Jérusalem, ce n'est pas le temple, il n'y a pas de temple dans la Jérusalem céleste, pardon. C'est les remparts de Jérusalem, j'ai plus le truc en tête, je lise, mais en termes de temps. Enfin bref, quand il nous dit que la Jérusalem céleste repose sur les 12 apôtres, c'est exactement ça qu'il fait. Il dit que l'Église, elle est, dans sa nature même, apostolique, ça fait partie de son essence, ce n'est pas simplement un accident de l'histoire. Alors tout ça, évidemment, ça suppose qu'on a mûri le témoignage apostolique. Ce n'est pas quelque chose qu'on va dire en 50 après Jésus-Christ, mais même pas en 70. Tout ça, donc tous ces arguments nous disent que c'est quand même le plus plausible qu'on ait à la fin du 1er siècle. Or, Domitien, alors de fait, hein, Domitien, un peu comme Néron hein, d'ailleurs, il avait une réputation exécrable dans l'historiographie romaine ancienne. Quand vous allez voir Tacite, Suétone, Dion Cassius, on nous présentait Domitien comme une espèce de tyran maniaque. Et alors ça, c'est intéressant, qui voulait se faire honorer comme Dieu. Dominus et Deus. Alors, dès son vivant, et pas simplement après sa mort, et c'est ça qui paraît très orgueilleux aux historiens romains, c'est que l'apothéose ou la divinisation des empereurs, ça c'est un truc assez classique, mais c'est après leur mort. En fait, on les panthéonise, en fait, c'est comme Maurice Genevoix, si on met au Panthéon. Donc c'est une manière de dire bon, c'est des grands hommes qui ont... Mais alors, c'est pas du tout pareil si vous voulez vous faire reconnaître comme Dieu de votre vivant. Alors là c'est que vous ne sentez plus, si vous voulez. Il y a vraiment une prétention qui paraît démesurée. Et alors, Domitien, visiblement, avait cette prétention. Et c'est pas impossible qu'il y ait des allusions à ça dans l'Apocalypse, dans le fait notamment que ces fameuses bêtes, les bêtes de l'Apocalypse, qui représentent l'Empire romain, il y en a une qui veut se faire adorer comme Dieu. Alors, ça serait une allusion codée aux prétentions de divinisation de Domitien. Et puis, Domitien, ça explique pour partie donc, les persécutions, en fait partielles, hein, ce n'est pas partout dans l'Empire romain, hein, cette histoire-là. Enfin, il y a quand même des endroits où ça chauffe, notamment en Asie, sous Domitien. Ce qui explique donc, ces persécutions, c'est le fait que Domitien sentait que l'Empire romain devenait tellement grand, c'est qu'il risquait de lui échapper, et que donc il fallait lui donner une unité, justement, une unité religieuse autour de sa personne, et autour évidemment de la religion romaine et de la culture romaine. Vous voyez, c'est un contexte très voisin du contexte des Maccabées, donc d'Antiochus Épiphane, au IIe siècle avant Jésus-Christ, qui a été l'occasion de production du livre de Daniel, qui est le seul livre apocalyptique de l'Ancien Testament, l'Apocalypse de Saint Jean. C'est la seule apocalypse canonique dans le Nouveau. Son pendant, c'est l'Apocalypse, c'est Daniel, qui est la seule apocalypse de l'Ancien Testament dans un contexte un peu semblable, un programme d'uniformisation politique, donc religieuse, qui n'accepte plus la particularité à la fois des Juifs et encore plus des chrétiens, et donc qui occasionne ces fameuses persécutions. Alors, ça se manifeste par exemple par l'obligation d'offrir un sacrifice à Rome ou de payer des taxes religieuses à Rome. Donc voilà, tout ça, parce qu'on sait de Domitien, ça colle quand même assez bien, et vous voyez que ça nous aide pour interpréter les choses, hein, cette fameuse bête qui veut se faire adorer, si on a un petit peu en tête ce que les prétentions de Domitien, ça nous aide quand même à comprendre pourquoi est-ce que Saint Jean, l'auteur de l'Apocalypse, en parle comme il en parle. Alors oui, je parlais de persécution. Il semble d'ailleurs que Jean lui-même, l'auteur de l'Apocalypse, a été victime de mesures d'éloignement ou de persécution. Puisque au verset 9 du chapitre 1er, voilà ce que dit Jean. « Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans l'épreuve. » L'Apocalypse est écrite dans un temps d'épreuve et de crise. C'est un homme éprouvé, Jean, ce fameux Jean, qui écrit à des frères chrétiens qui eux-mêmes subissent des épreuves, le même type d'épreuve. Donc moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans l'épreuve, la royauté et la constance en Jésus. Je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Alors Patmos, vous savez sûrement, c'est une petite île de la mer Égée, à l'ouest donc de l'Asie mineure, hein, c'est pas très loin des sept villes auxquelles Saint Jean parle des sept lettres de l'Apocalypse. Et quand Jean nous dit « je me trouvais dans l'île de Patmos », il n'y est pas pour ses vacances avec le Club Med. À cause de la parole de Dieu et du témoignage, alors « marturia », c'est un mot très fréquent dans l'Apocalypse, et très souvent dans l'Apocalypse, ce témoignage suppose qu'on imite le témoignage de Jésus. C'est Jésus qui est le premier témoin, celui qui témoigne de la parole jusqu'à en mourir. Donc quand on parle de témoignage dans l'Apocalypse, très souvent dans l'Apocalypse, ça s'accompagne d'épreuves. Oui, nous, quand on parle du mot martyr, très souvent, martyr chrétien, on dit, il est mort ou c'est pas loin, quoi. Mais évidemment, ce sens chrétien du mot martyr, il n'existait pas en grec. À l'origine, marturien, ça veut simplement dire témoignage. Donc, ça s'accompagne pas forcément de difficultés. Mais l'Apocalypse, justement, les chrétiens sont en train de donner le sens que nous, on donne au mot martyr, au mot martyr grec. Et donc Jean, l'auteur de l'Apocalypse, est un martyr au sens où le témoignage qu'il rend à Jésus et à la parole de Dieu lui a valu des ennuis. Alors c'est quoi ces ennuis? C'est probablement donc une forme d'exil. Alors les spécialistes du droit romain distinguent la relegatio in insulam et la deportatio ad insulam. Donc, alors, c'est deux peines d'exilé. La déportatio est plus sévère que la relégatio, parce que la déportatio, on est privé de ses droits, de sa citoyenneté, ses biens sont confisqués. Je ne sais plus d'ailleurs ce qu'on dit pour l'auteur de l'Apocalypse, si on arrive à distinguer laquelle des deux. Mais enfin, c'est sans doute une des deux. Donc, il y a eu des ennuis à cause de... Il a une peine, oui, c'est une peine officielle, ou bien une relégation, une déportation à Patmos. Alors voilà pour l'auteur de Saint Jean, je suis très long et très lent et probablement très soporifique, je suis vraiment désolé. j'ai du mal avec Zoom, pardon, excusez-moi, j'ai du mal. Alors j'avance quand même, quelle heure c'est? 21h28. Oui, il faut quand même que je termine par les deux petits trucs. Alors. Toujours pareil, quand on s'intéresse à un livre dans la Bible, on s'intéresse aux sources. Il y avait la canonicité, le contexte historique, l'auteur, tout ça on vient de le faire, mais aussi les sources. C'est quand même assez rare dans la Bible, et dans la littérature ancienne en général d'ailleurs, c'est assez rare qu'on écrive un livre de zéro. On reprend plus ou moins, on s'inscrit toujours dans une tradition de lecture, il y a des auteurs dont on s'inspire, et c'est notamment vrai dans la Bible. Alors, quelles sont les sources de Saint Jean? Alors, il y a deux types de sources dans l'Apocalypse de Saint Jean. La première, elle est très facilement repérable dans vos Bibles récentes, parce que les traductions récentes, en général, mettent en italique des citations de l'Ancien Testament qu'on a dans le Nouveau. Et alors, quand vous lisez l'Apocalypse, alors là, c'est très, très flagrant, vous dites, mais les deux tiers, enfin, j'exagère, c'est pas les deux tiers, mais j'ai pas le compte exact. Enfin, mettons le tiers, ça, c'est peut-être pas du tout exagéré. Le tiers de l'Apocalypse est en italique, ça veut dire que le tiers de l'Apocalypse n'a pas un Jean pour auteur, mais des auteurs de l'Ancien Testament, qui sont essentiellement des prophètes. Il y a quelques psaumes, mais c'est essentiellement des prophètes. Plus Daniel. Alors Daniel, on met de quel côté il y a Ézéchiel, beaucoup Ézéchiel, pas mal Zacharie, un peu Isaïe et Jérémie, et beaucoup Daniel. Enfin, ça, c'est les sources littéraires, donc vétérotestamentaires, essentiellement prophétiques, ce qui confirme l'autodéfinition de Saint Jean. Enfin, je dis Saint Jean, bon, c'est con. Enfin, oui, c'est dit, bon, enfin, je ne vais pas revenir sur qui est Saint Jean. De l'auteur de l'Apocalypse, ça confirme son autodéfinition comme prophète. Premier type de source. Et deuxième type de source, alors ça, une fois qu'on l'a vu, on ne le rate plus. On se rend compte que si vous priez, et c'est sûrement le cas, et je vous en félicite, si vous priez l'office, notamment les vêpres, assez souvent, on a des cantiques de l'Apocalypse dans les vêpres. Par exemple, on avait... 11-12 aujourd'hui, 4-5 hier, je ne sais plus. Enfin bon, alors ça, c'est très, très, très net aussi dans l'Apocalypse. Il y a visiblement, parmi les sources de Saint Jean, il prend des sources liturgiques, alors cette fois pas de l'Ancien Testament, mais des communautés chrétiennes. on trouve des doxologies, on trouve des acclamations, on trouve des actions de grâce, des lamentations et beaucoup d'hymnes de louange qui sont alors chantés par des anges, par des vivants, par des anciens, donc par toutes sortes de personnages, mais on n'est pas dupes et on sait bien, enfin, les gens qui lisent ça se disent, ah ben tiens, je connais, vous voyez, c'est comme, il faudrait que je prenne un exemple, mais si j'écrivais un livre en disant, alors un ange, l'ange dit aux 24 anciens, chantez avec moi, que vive mon âme à te louer, enfin, vous ne serez pas dupes, vous direz, ah ben tiens, c'est marrant, il chante un chant d'Emmanuel, vous voyez, c'est, donc on reconnaît quand même hein, ces choses-là. Donc ça veut dire que pourquoi il fait ça ? Parce que, là encore, c'est important pour l'interprétation, il est en train de faire, il ne fait pas que ça, mais il est en train de faire de la théologie liturgique. C'est-à-dire que l'Apocalypse, c'est un écrin de la liturgie.
Les chrétiennes, notamment la liturgie eucharistique, puisque toute cette histoire arrive, ça c'est dans le chapitre 1, le jour du Seigneur. C'est dimanche, c'est le jour où Jésus est ressuscité, c'est le jour où on célèbre la messe.
Retournez plutôt dans la plaie, mais enfin bon. Normalement, le dimanche, les bons chrétiens vont à la messe, et c'était déjà le cas à l'époque. Et donc, l'auteur de l'Apocalypse, de manière très puissante et très, très originale pour nous, mais beaucoup moins quand on sait un petit peu ce que c'est que l'apocalyptique, est en train de donner une interprétation théologique de la liturgie chrétienne. Alors pour ça, le meilleur moyen, ben qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il prend des bouts de la messe, alors il prend des chants, il prend des trucs comme ça, il prend des symboles qui sont des symboles liturgiques, ben, on parle d'autel, on parle d'encens, on parle de prière, on parle de toutes sortes de choses, on parle de prêtres, et il les met dans un ensemble de visions qui sont là pour nous donner un peu la face cachée des sacrements. Il nous dit, mais il répond à une question toute simple. Hein, quand vous préparez quelqu'un au baptême ou à la première communion, on lui dit, bah, tiens, on va te mettre, je sais pas, on va te mettre de l'huile sur le front. Alors, je veux bien, je ne comprends pas, mais qu'est-ce que ça veut dire, vous voyez ? Alors, on explique, on dit, bah, parce que y a les rois avaient une onction d'huile, Jésus. Alors, Saint Jean fait pareil, mais au lieu de donner une explication comme on ferait nous, il donne une explication par vision. Toujours pareil. Hein, la doctrine, c'est la vision devenue formule 1. Mais donc, il y a un fort contenu doctrinal dans l'Apocalypse sur la nature même de la liturgie chrétienne et notamment de l'Eucharistie. C'est pour ça que le titre privilégié du Christ qui est donné dans l'Apocalypse, c'est l'agneau. Il y a une symbolique pascale. Alors là, ça, quand je dis pascale, c'est à la fois la mort et la résurrection de Jésus, mais c'est aussi la Pâque juive, c'est-à-dire les plaies d'Égypte, le don de la loi au Sinaï. Alors ça, normalement, ça ne se rate pas. Hein. Donc tout ça milite très fortement dans le fait que c'est une théologie de l'Eucharistie. Voilà pour la deuxième source de les prophètes et puis la liturgie chrétienne. Et alors, il me reste 5 minutes, c'est ça ? Et c'est très bien parce que, finalement, je vais dire à peu près ce que je voulais vous dire. Il faut quand même que je vous parle, en conclusion, de qu'est-ce que c'est que l'apocalyptique en général. Parce que je vous ai dit, il y a Daniel, dans la Bible, il y a 2 apocalypses. Une dans l'Ancien, c'est le livre de Daniel. Une dans le Nouveau, c'est l'Apocalypse de Saint Jean. Mais je vous ai dit aussi, il y a beaucoup d'autres apocalypses et c'est très précieux de les lire parce que ça nous donne le langage, ça nous donne le code, quoi. On arrive à comprendre ces histoires de vision. Alors, du coup, c'est quoi l'apocalyptique ? Alors, l'apocalyptique, c'est 2 choses. En même temps, c'est à la fois un genre littéraire, c'est-à-dire un ensemble de conventions littéraires pour écrire des livres de religion. Des livres dans le contexte judéo-chrétien. Il y a une manière d'écrire, c'est un style, c'est un genre littéraire, mais c'est aussi, c'est pas seulement un genre littéraire, c'est un genre littéraire porté par des mouvements, alors parfois on dit sectaire, j'aime pas trop cette appellation parce que nous, le mot secte, on lui donne un sens qu'il n'avait pas avant, un sens de manipulation de conscience, on veut l'argent des jeunes, des personnes, et c'est pas du tout ça. Alors, il faudrait dire des mouvements minoritaires et très motivés qui se pensaient investi par une mission divine. Vous voyez, c'est ça en fait. Donc c'est des mouvements apocalyptiques qui produisent des textes à usage interne, mais dont on pense qu'en réalité ils vont concerner tout Israël ou toute l'Église. En fait, c'est deux choses à la fois, un style, un genre littéraire et un type de mouvement religieux. Donc quand je dis secte, alors là encore, j'ai un truc qui ressemble un peu à ça, mais enfin, qui ressemble sans ressembler. Je reprends le renouveau charismatique. Hein. Je n'ai rien contre le renouveau charismatique, bien au contraire. Hein. Bien au contraire, mais ça serait un peu quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez, une communauté charismatique qui dit ben, on a un charisme particulier, voilà, il y a quelque chose qui se passe dans une communauté à tel point qu'on on a un mouvement auquel on va donner une structure, voilà, avec des formes, même des formes juridiques. Mais ce qu'on vit, nous, ça concerne toute l'Église. En fait, non, mon exemple n'est pas si mal que ça, parce que l'Esprit Saint nous fait vivre quelque chose, mais l'Esprit, ce n'est pas notre propriété, il est pour toute l'Église. Et donc, on est heureux de partager notre expérience avec toute l'Église. Et quand on va la partager, eh ben, on écrit des apocalypses. Alors, c'est là, bon, je ne crois pas qu'il y ait jamais de membre de communauté charismatique qui écrit des apocalypses, mais à l'époque, c'est ce qu'on faisait. Voilà, on écrivait des apocalypses. Alors, un autre point important, c'est que l'apocalyptique, c'est quelque chose, comme genre littéraire et comme mouvement, qui apparaît dans des contextes de crise et essentiellement de persécution. Alors ça, j'en ai parlé avec Domitien et Néron, et aussi Antiochus Épiphane. C'est pas un hasard, en fait. Hein. Ces mouvements-là sont en général des mouvements, c'est des mouvements de réveil, en fait. C'est quand ça va mal, on sent que les choses, les gens sont en train de céder, ou alors on n'arrive plus à, on n'a plus l'énergie de supporter les vexations, les persécutions. Et alors, il y a un mouvement de réveil, un mouvement de remotivation, et les textes, les apocalypses sont là essentiellement pour redonner du courage, pour redonner de l'enthousiasme à des communautés qui sont en train de s'affaiblir du fait de la crise qui est traversée. Qui est souvent une crise politique et religieuse. Alors, le genre littéraire, il obéit à des codes. Bon, c'est ça qu'il faut connaître un petit peu. Alors, je vous les donne, j'en donne 5, et puis je m'arrêterai là. Alors, l'Apocalypse comporte une révélation. Alors, c'est même tellement vrai que l'Apocalypse en grec, ça veut dire révélation. C'est-à-dire qu'il y a un destinataire humain qui reçoit une révélation surnaturelle très évidente. Vous voyez, très évidente, c'est-à-dire que c'est pas que on a une pensée qui traverse l'esprit et puis on se met à discerner en disant bah, « Tiens, un peu à la Saint Ignace de Loyola, quoi, est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient du bon esprit? Est-ce que ça vient du mauvais esprit? Est-ce que ça vient de moi ?» Non, c'est pas comme ça. C'est une révélation très évidente, c'est-à-dire que le ciel s'ouvre, il y a un ange qui apparaît, ou là c'est même le Christ dans l'Apocalypse, et donc c'est de manière très évidente, il y a une vision qui est donnée à un homme, une révélation qui est donnée à un homme. Ça, c'est vrai aussi bien chez les Juifs que chez les chrétiens. Évidemment, ce qui est propre aux chrétiens, c'est que parfois, ce n'est pas des anges, c'est le Christ qui donne la révélation. Deuxième caractéristique, le destinataire humain de la révélation, très 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 souvent, c'est pas un personnage contemporain, mais c'est un personnage du passé. Alors, évidemment, c'est une fiction littéraire. Mais pour donner plus de poids et de que ça soit plus percutant, ça fait partie des codes, ça fait partie de la manière de l'Apocalypse, de décrire l'Apocalypse. On va prendre un grand héros du passé et on va dire, en fait, on avait oublié de vous dire, ce gars-là, alors ça peut être Enoch, ça peut être Esdras, ça peut être Isaïe, ça peut être même Adam, il y a l'Apocalypse d'Adam, alors là on ne peut pas remonter plus haut qu'Adam. Mais donc, oui, c'est quelqu'un, c'est quand même un gradé, vous voyez, quand Adam dit un truc, enfin, tout le monde est intéressé. Et on va dire, en fait, Adam a une révélation spécialement pour nous aujourd'hui, elle était cachée parce qu'elle concernait que notre époque, mais maintenant on l'a retrouvée, et vous voyez, le bon Dieu qui sait tout savait qu'on allait passer par une crise, que Antiochus Épiphane allait nous persécuter, que Domitien allait nous persécuter, et il nous a réservé un texte pour nous consoler et nous encourager. Vous voyez, alors quand vous dites ça, tout de suite on a envie de lire. Vous voyez, quand on vous dit c'est Enoch, c'est Adam, c'est Isaïe, alors que si on vous dit c'est Tartampion qui a une vision, on dit oui, enfin c'est qui ce gars, la vision elle vient d'où, comment on sait que c'est vrai, d'où ça sort, vous voyez, on est tout de suite plus méfiant. Alors là, vous voyez tout de suite quelque chose d'original dans l'Apocalypse de Saint Jean, c'est que l'Apocalypse de Saint Jean n'a pas recours à ce procédé de pseudonymie, puisque là, pour le coup, l'Apocalypse de Saint Jean, c'est pas Adam, c'est pas Isaïe, c'est ça, c'est Jean. D'ailleurs, et il est tellement modeste, cet homme, qu'il ne prétend même pas être un apôtre. Il dit « je suis un prophète », mais des prophètes, il y en avait d'autres. Dans les Actes des apôtres, on a vu Agabus, qui était prophète, je ne sais plus, puis on avait un, Agabus lui-même, je ne sais plus, qui avait cette fille qui prophétisait. Mais il y avait des prophètes chrétiens, il y en avait peut-être même beaucoup. Enfin, donc, il ne se présente pas comme un grand personnage du passé. Mais modestement, il dit « voilà, moi j'ai une vision sur l'île de Patmos pour vous, mes frères, dans l'épreuve ». Troisième point caractéristique de l'apocalyptique, c'est que ça passe par des symboles étranges qui doivent être décodés. Qui sont, alors, ça, il y a souvent un recours aux animaux. Ça, c'est dans Daniel, par exemple, vous avez ça déjà. Donc, c'est un peu comme les fables de La Fontaine. Alors, pourquoi est-ce que, je ne sais pas très bien pourquoi est-ce qu'on a recours à ça, mais pour eux. Alors, certains disent, c'est toujours parce que comme c'est un contexte de crise, on ne veut pas que ce soit trop évident. Alors, quand on critique le pouvoir en place, il vaut mieux dire maître un corbeau sur un arbre perché. Enfin, quand on critique le roi, il vaut mieux parler d'un corbeau que du roi. Alors, c'est possible, peut-être ça peut jouer. Peut-être aussi, c'est un phénomène culturel. Les gens étaient contents à l'époque, les gens étaient contents de décoder et de dire bon, il y a des histoires de bouc, de lion, d'aigle, de trucs comme ça, et d'identifier. De dire, mais qui ça peut être ce corbeau qui ça peut... Enfin, il n'y a pas de corbeau, je pense, l'Apocalypse, mais c'est qui ce lion, c'est qui ce bélier, c'est qui ce... Alors, c'est codé, il y a des symboles, mais justement, dans les Apocalypses, il y a très, très, très souvent un personnage céleste qui, ou bien carrément donne le décodage, ou bien le facilite grandement. C'est rigolo, quoi. Enfin, à la fois, c'est codé, mais enfin, il faut quand même... Il faut quand même qu'il y ait le décodeur un peu, sinon faut pas que ce soit trop codé. Donc, il y a des petits dialogues. Alors, en général, l'ange dit « comprends-tu la vision ?» Donc, la vision, c'est un chaudron et puis un aigle qui passe trois fois au-dessus du chaudron. Enfin, j'invente. Hein, mais enfin, et alors, l'ange dit au visionneur « comprends-tu ce que tu vois ?» Le visionnaire dit « ben non, comment je pourrais si tu m'expliques pas ?» Et alors, le visionnaire dit « ben alors, le chaudron, c'est une armée qui vient de l'Est. Et puis, l'aigle, c'est... un prophète qui va venir trois fois, enfin, ce genre de choses. Donc c'est codé, mais en même temps on décode un petit peu. Alors ça passe par des symboles, ça passe aussi, ça c'est très très caractéristique de l'apocalyptique, il est très souvent question de livres ou de rouleaux, puisque le codex à l'époque ça n'existait pas, donc c'est des rouleaux qui contiennent des secrets. Vous voyez, j'en parle un peu, c'est un peu la même, le symbole est codé, mais le livre, c'est aussi quelque chose de codé. Alors, rappelez-vous, parce qu'on est dans une société, dans un monde où il y a très peu de gens qui savent lire. Et à cause de ça, le livre en tant que tel, quand vous voyez un livre écrit, nous, on a tout de suite envie de dire « c'est bon, c'est publié, tout le monde peut lire », mais ce n'est pas le réflexe des hommes de l'Antiquité. On est plutôt... on se dit « il y a quelque chose à comprendre, mais ça m'est pas accessible parce que je ne sais pas lire bon, ». Il y a quelques personnes qui savent lire, mais ce sont des lettrés, c'est des privilégiés, ou c'est des prêtres. Les prêtres savent lire. Donc, vous voyez, les livres, c'est un petit peu dans le même tonneau de cet apocalyptique qui est à la fois codé, mais codé pour être décodé. Il y a un côté élitiste, hein, d'ailleurs, dans l'apocalyptique. Les mouvements apocalyptiques, c'est pas des mouvements populaires, hein, c'est plutôt des mouvements élitistes de gens très cultivés, qui, eux, savent lire, qui savent écrire, puisqu'ils vont produire des apocalyptiques, et parmi les codes, on aime bien mettre des codes où on se retrouve entre gens de bonne compagnie, donc des lettrés. Quatrième point, il y a assez souvent, mais ce n'est pas tout le temps le cas, dans l'Apocalypse, il y aura les deux d'ailleurs, il y a assez souvent le motif d'une ascension au ciel. Vous voyez, une vision, on peut l'avoir sur terre, on peut l'avoir aussi au ciel, et ce n'est pas tout à fait pareil. Alors, Saint Jean, dans l'Apocalypse, au début, il y a une vision terrestre, et quand on chapitre 1, c'est là où il va faire les sept lettres aux sept églises d'Asie, et puis ensuite, on va dire, ben, maintenant, tu vas monter au ciel. En général, quand on monte au ciel, c'est qu'il y a un motif sacerdotal qui est impliqué, mais ça, je vous expliquerai la prochaine fois, donc c'est pas tout à fait la même, c'est pas qu'une vision, il y a aussi l'idée de cultuelle. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a les deux dans l'Apocalypse? Ben là, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est assez clair. Il y a le côté terrestre parce que c'est ancré dans l'histoire. Saint Jean est un prophète, enfin, l'auteur de l'Apocalypse est un prophète. Il s'intéresse à la situation concrète des communautés. Il a les pieds bien sur terre. Et les problèmes des sept communautés d'Asie, c'est des problèmes qui peuvent nous concerner aussi aujourd'hui, d'être tiède, de pas. Bon. Donc, c'est pas simplement une espèce d'extase mystique où on entend les lumières, on voit les sons, enfin, puis des trucs où il n'y a rien à en tirer. C'est très incarné, d'une certaine, c'est historique. Mais comme il est très intéressé par l'aspect liturgique, ben, il est obligé de jouer la carte du culte, et cette carte du culte, elle se fait par l'ascension au ciel. Alors, ça vous paraît peut-être un peu bizarre, mais je vous expliquerai mieux ça la prochaine fois. Alors, il y a le motif donc de l'ascension du voyant. Alors ça, c'est un des motifs, bon, pas dans toutes les apocalypses, mais il y a pas mal d'apocalypses qui s'appellent l'ascension, l'ascension de Moïse, par exemple, l'ascension d'Isaïe, tout ça. Quand il y a le mot ascension dans quelque chose, c'est tout le temps une apocalypse. Quand vous voyez un livre, ascension de Paul, c'est une apocalypse. Et puis, cinquième et dernier point, c'est que les apocalypses, elles sont très intéressées, juives et chrétiennes, donc elles sont très intéressées par connaître le dessous des cartes, comment dire, sur la manière dont Dieu conduit l'histoire. Là aussi, on voit que les apocalypses, c'est intéressé par l'histoire, hein, ce côté prophétique. Mais justement, ce qu'on cherche dans l'apocalyptique, c'est une explication globale de l'histoire. Vous voyez, le prophète, quand il reçoit un oracle, en général, on est dans un contexte très précis, par exemple, je sais pas, la guerre entre Damas et Israël. Vous avez ça dans le livre d'Isaïe. Alors, il y a une alliance, ce qu'on appelle le conflit syro-éphraïmite. Enfin, bon, bref. Bon, c'est un truc assez limité. On ne sait pas très bien de quel côté il faut se mettre. Alors, le prophète est là et il dit, bon, ben là, très clairement, Dieu vous dit, faut se mettre avec de tel côté et combattre tel roi. C'est très localisé. C'est dans l'histoire, mais le problème est localisé. Et l'oracle est localisé. Ce que l'apocalyptique recherche, c'est le sens global de l'histoire du début à la fin. Vous voyez, c'est le début de la philosophie de l'histoire, si on veut, sauf que c'est pas une philosophie, c'est une théologie. On cherche à comprendre la logique totale de l'histoire, c'est-à-dire comment est-ce que Dieu conduit l'histoire pour la faire advenir à sa fin. Et la grande idée, justement, des apocalypticiens, c'est pour ça qu'il y a une révélation de la fin, c'est que si vous connaissez la fin de l'histoire, eh ben vous comprenez ce qui s'est passé avant. Il faut connaître la fin du livre, il faut connaître la fin du scénario pour saisir ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Et évidemment, si vous êtes dans un contexte de persécution, vous êtes en train de vous dire « mais Dieu nous abandonne, je ne comprends pas, ça va mal, qu'est-ce que Dieu fait avec nous ?» Et puis quelqu'un vient et vous dit « mais attendez, vous avez l'impression de rien comprendre, mais parce que vous ne connaissez pas la fin du film, et moi je vais vous la révéler, parce que je suis monté au ciel, il y a un ange qui m'a fait voir un chaudron et trois aigles, et maintenant je vais vous expliquer ce que ça veut dire. » Eh bien, ayant la fin du scénario, vous êtes armé pour comprendre ce qu'il y a avant, que Dieu est en train de faire advenir la fin. Dieu fait advenir la fin de l'histoire. Ça, c'est très fort comme désir de l'histoire, comme désir de l'apocalypticien, c'est de dévoiler le dessous des cartes, mais de manière totale de l'histoire. J'ai parlé de philosophie de l'histoire, on pourrait dire que les derniers apocalypticiens, c'est Hegel et Marx. Vous voyez, c'est ceux qui. Alors, la postmodernité, elle est anti-apocalyptique au sens où elle refuse des explications globales de l'histoire. Et c'est pour vous faire comprendre, je fais des énormes anachronismes, mais enfin. Mais disons, cette idée que l'histoire a un sens total et qu'on peut le décoder, ça naît dans l'histoire de l'humanité, dans la culture de l'humanité, ça apparaît avec l'apocalyptique. Donc, c'est quand même pas rien, hein. L'apocalyptique, c'est quand même quelque chose d'important, simplement au plan culturel. Évidemment, ça allait au plan religieux et spirituel, mais déjà au plan culturel. Bon, eh bien, écoutez, oulala, ça fait plus d'une heure que je vous parle, et donc vous devez être très fatigué. Et donc, ben, je vous remercie de votre fidélité. Vous êtes très méritant. Et puis la prochaine fois, donc, je vous expliquerai cette histoire du culte et puis cette histoire de vision devenue formule. Enfin, si ça vous intéresse. D'ici là, je vous souhaite beaucoup de courage. On essaye dans ces circonstances bien pénibles. Tiens, il faudrait écrire un apocalypse. Tiens, ça, je dis, c'est exactement. Si on a un qui se sent né une période de crise, un petit peu persécuté par l'État, donc il faut. Voilà. Si on a un nouveau qui voit un ange qui lui dit monte au ciel et je vais t'expliquer, ben, faut qu'il se lâche et qu'il écrive une apocalypse. Ben, je vous soutiendrai et peut-être qu'on connaîtra le dessous des cartes. Mais enfin, que le Seigneur voilà, nous fasse la grâce de nous retrouver quand même parce que ça commence. Autour de la messe, je priais parce que ça nous manque à tous en même. Allez, que le Seigneur vous bénisse, et on va terminer en priant. Après tout, c'est pas interdit qu'on va faire ça comme ça. Voilà.